chez vous, pour vous, avec vous, Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciate, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Emmanuel Urien. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Claire.
Qui vient nous présenter son tout nouveau recueil de nouvelles intitulé « Tous nos petits morceaux », édité chez Danoir Cibleux, aux éditions Danoir Cibleux. On en parle dans quelques instants avec elle, mais comme à l'accoutumée, la page info avec une info et qui d'ailleurs concerne directement Emmanuel puisqu'elle sera présente avec Manukos samedi 21 janvier de midi de 12h à 14h à la librairie Ombre Blanche 50 rue Gambetta côté cour, donc dans le petit patio où la librairie reçoit les auteurs pour
voilà,
les lectures.
Où ont lieu les rencontres en général.
D'accord. Et donc c'est une lecture musicale hein, de toi et de Manu. Voilà, et donc tu voilà, on peut dire il lit elle, elle lit lui, hein, voilà, c'est parfois l'inverse entre eux, mais donc ce sont des notes teintées avec de la guitare ou de la senza.
Oui, on échange un petit peu les livres, les instruments, etc. On profite des possibilités que donnent les différents instruments dont on peut se servir.
Et avec donc voilà, il y aura des lectures donc de à la fois de tes livres à toi et des livres de Manukos.
Voilà, on lit des nouvelles choisies dans leur intégralité de l'un ou de l'autre et on essaie de donner une petite atmosphère musicale derrière tout ça pour que ce soit on va dire vraiment des histoires qu'on lit à l'oreille des gens avec une véritable ambiance.
Mais je suis sûre que ça va être super bien. Moi, je vais essayer d'y aller. Donc, c'est ce samedi de midi à 14h à la librairie Ombre Blanche, rue Gambetta à Toulouse. Donc, n'hésitez pas à venir. L'entrée, bien sûr, libre et gratuite. Donc, voilà, c'est vraiment à aller voir, à aller écouter. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Alors Emmanuel, nous allons parler donc de ton dernier recueil de nouvelles, mais avant on va faire un petit peu un récapitulatif hein, de ce que tu as écrit.
De ma longue carrière.
Oui, mais oui, ça a commencé en 2005 avec Cours noir sans sucre, hein, un recueil de nouvelles qui a eu le prix du Scribe en 2006, de la nouvelle du Scribe en 2006. Hein. C'était Jacques Griffaud hein, à l'époque. Hein,
voilà, le libraire du Scribe qui...
De Montauban.
Qui a cédé sa librairie à des femmes renarde maintenant.
Oui, voilà, une tout à fait. Histoire. Et donc voilà, Cours noir sans sucre, premier recueil de nouvelles. Hein, et c'était tout à fait, le titre était tout à fait prometteur du contenu, hein, parce que c'était effectivement des nouvelles. Donc là, le principe de la nouvelle, ce sont des histoires courtes, hein, avec une chute. Et puis voilà, vraiment intense et assez noires, hein, les nouvelles. Hein.
Oui, je n'ai pas menti en intitulant ce
recueil
de
cette façon. Ah non, pas du tout. Alors ensuite, il y avait eu « Toute humanité mise à part » aux éditions Quadrature hein, en Belgique en 2006, un nouveau recueil de nouvelles aussi, qui était bien, bien noir aussi, hein, ces nouvelles.
Oui, voilà, je suis restée dans la veine noire assez longtemps.
Ensuite, il y a eu « La collecte des monstres », encore un recueil de nouvelles en 2007, édité cette fois-ci chez Gallimard. Mm-hmm. Une grande maison d'édition, on peut dire.
Oui, un petit peu le rêve de tout auteur débutant.
Oui, puis que tu nous avais raconté d'ailleurs quand tu étais venue en parler à Radio Occitanie, tu l'avais envoyé comme ça, sans y croire vraiment. Et puis,
comme je l'avais fait de nombreuses fois auparavant, et comme le font de nombreux auteurs en fait.
Et puis là, ça a marché.
Oui, miracle, ça a marché. Je ne saurais jamais exactement pourquoi celui-ci et pas d'autres. Mais bon.
Voilà, la collecte des monstres. Et puis, donc, tu as renouvelé chez Gallimard également avec ton premier roman, hein, puisqu'à l'heure actuelle, c'est ton seul roman.
Le seul roman publié, oui.
Voilà, Tu devrais voir quelqu'un. en 2009, donc chez Gallimard. Et ensuite, il y a eu une petite nouvelle érotique. Hein, donc là, on a changé un peu de style.
Oui, Vénus Atlantica, que j'ai fait sur commande, en quelque sorte, de la maison d'édition Inuit.
Inuit, voilà.
Après avoir aussi publié chez eux une nouvelle sur le jazz, qui s'appelle Jazz Me Down, également pour une commande, pour un coffret.
D'accord, donc Vénus Atlantica, donc ça c'était en 2010.
Oui.
Et puis donc te revoici avec tous nos petits morceaux aux éditions D'un noir si bleu, donc en septembre 2011, là c'est tout récent, hein, ça fait la rentrée littéraire, avec ce recueil de nouvelles. Et puis bon, je le dis avant parce que bon, le temps passe tellement vite dans cette émission que des fois j'ai pas le temps de dire tout ce que je veux. Tu m'as dit hors antenne que tu avais un roman qui était fini et qui serait certainement publié dans l'année, donc un deuxième roman.
Un deuxième roman.
Ça sera ton deuxième roman.
Que j'ai fini il y a quelques mois, là, à peu près au moment de la sortie de tous nos petits morceaux. Et qui, donc, là, est en lecture chez un certain nombre d'éditeurs, dont j'attends la réponse.
Voilà, je suis sûre que tu auras une réponse positive chez l'un d'eux, j'en suis sûre. Et donc, ça sera ton deuxième roman. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais repris un des personnages de ton premier roman. Tu devrais voir quelqu'un.
Oui, j'ai voulu explorer un petit peu plus le sort qui n'était pas très enviable d'un des personnages de Tu devrais voir quelqu'un. Mm-hmm. Et donc voilà, sans que ce soit réellement une suite, il y a une petite corrélation entre les deux romans.
Bon, on est impatients de lire ce deuxième roman, Emmanuel. Alors pour l'instant, c'est tous nos petits morceaux aux éditions, comme je disais, D'un noir si bleu. Alors pour donner une idée, parce que c'est un livre original, moi j'ai beaucoup aimé, le personnage principal de ce recueil, ce sont les miroirs, quoi, en fait.
Ce sont des objets.
Donc, des miroirs, mais qui ont une certaine, des objets, oui, certes, mais qui ont une certaine sensibilité, une certaine émotion.
Oui, j'ai pris la place de ces miroirs en me disant qu'ils devaient voir un certain nombre de choses
sous
un angle qui était totalement inédit pour nous autres êtres humains plus ou moins narcissiques.
De l'autre côté, oui, voilà, oui.
Et j'ai trouvé assez intéressant de me détacher complètement du point de vue humanisé, mais en même temps, je ne pouvais pas complètement priver ces objets d'une petite part d'humanité
qui permettait
de rendre lisible la nouvelle. Quoi. Ça ne pouvait pas rester complètement froid.
Tout à fait.
Mais donc, c'était cette espèce d'entre-deux qui m'a permis de planter des atmosphères et des décors complètement différents d'une nouvelle à l'autre, ce qui était aussi assez intéressant pour moi. J'avais envie de sortir un petit peu de la veine noire, un peu sociale que j'avais installé dans les précédents recueils, et donc de profiter de styles différents.
Il y en a certaines quand même qui sont noires. Hein. Bon, il y en a qui se terminent bien, hein, je rassure les auditeurs, mais il y en a certaines qui sont difficiles, hein, certaines nouvelles qui sont noires.
Bon, on ne se refait pas complètement.
Non. Et heureusement, tant mieux, reste comme tu es, Emmanuel, nous on t'aime comme ça.
Merci.
Alors, je vais lire la quatrième de couverture pour donner une petite idée à nos auditeurs. Les miroirs en voix de Belle. Quand ils prennent la parole, témoins presque passifs de nos intimités, c'est pour nous renvoyer leur vision de notre histoire, fidèles ou déformés par le rôle qu'ils y jouent, et mettre en lumière nos lâchetés secrètes comme nos éclats les plus audacieux. Alors ça, c'est la quatrième de couverture. Donc, bon, ça donne une idée, mais on va décortiquer une par une.
C'est toujours difficile de faire une quatrième de couverture sur un recueil de nouvelles.
De nouvelles, oui. Sur un roman, ça doit être plus facile. Mais bon, sur un recueil de nouvelles, c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Alors oui, qu'on peut dire, les miroirs ne sont pas forcément les surfaces lisses et froides qu'on peut imaginer. Ils sont aussi porteurs d'émotions, de nos émotions aussi, qu'ils voient d'une certaine manière, donc qu'ils voilent ou qu'ils teintent d'une certaine manière. Et puis cela donne donc un recueil de 12 nouvelles qui sont assez insolites, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois dures, mais qui sont toutes teintées de réalité, quelque part de nos réalités cachées, de nos vérités cachées, et que seuls les miroirs ont appris à voir en témoins silencieux. Hein, on peut en résumer ça comme ça, d'une certaine manière. Alors Emmanuel, tu leur donnes la parole donc dans ce recueil. Et c'est ça qui est original aussi. C'est déjà l'idée est originale de faire parler des miroirs. Et puis donc tu leur donnes la parole. Et donc la plupart sont écrites à la première personne ou s'adressent directement à des humains.
Oui, sur voilà, c'est miroirs le miroir qui parle. Lui-même en général qui parle, qui s'exprime et qui parle pour lui-même ou qui s'adresse à la personne qu'il voit, qu'il reflète.
Mmh. Et puis c'est là où on apprend aussi plein de choses sur les miroirs, dans le sens où, bon, un miroir, c'est un miroir, mais il y en a plein de sortes, hein, entre la psyché, le miroir vénitien, le petit miroir de poche qui sert, on va le voir, pour vérifier qu'une personne est bien morte, hein, entre guillemets, qu'il n'y a pas de souffle sur le miroir. Enfin, tous ces miroirs, enfin, ça, c'est vrai, on n'y pense pas toujours, mais il y a plein de miroirs.
Il y en a une quantité assez impressionnante de différents types. Il y a les matières qui changent.
Tout à fait, les formes.
Et en fait, j'avais en préparation une dizaine d'autres nouvelles en fonction des types de miroirs que j'avais trouvés. Et puis, au bout d'un moment, le procédé s'épuise un petit peu, donc je ne voulais pas trop me répéter, mais j'ai en réserve des types de miroirs, les miroirs de sorcières, les miroirs
ça c'est bien, les miroirs de sorcières, moi j'aime bien.
Bon, peut-être un deuxième recueil, si jamais j'arrive à renouveler la veine, mais ce n'est pas certain.
Bon, et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'après la lecture, franchement, on ne regarde plus les miroirs de la même façon. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ah oui, non, on les voit d'une autre façon. Moi, quand je me maquille le matin, maintenant, je me pose la question. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi, là, lui derrière. Donc, ça fera peut-être ça à nos auditeurs aussi. Alors, tous nos petits morceaux à recueil, donc quatrième recueil de nouvelles, 12 nouvelles, donc au style original, des histoires insolites, des titres aussi singuliers. Et puis, on va le voir. Donc, la première, Éclat de miroir. Donc, c'est dans une cave, différents miroirs. Donc, justement, le miroir vénitien, la psyché. Il y a un miroir de théâtre, hein, de loge de premier rôle d'un grand théâtre. Enfin, voilà, c'est une discussion entre miroirs, puis même une compétition entre les miroirs, là, dans cette cave.
Hein. Oui, parce que la lumière se pose rarement.
Et oui, par le soupirail.
Sur tous les miroirs à la fois. Donc, chaque miroir qui peut avoir la parole la prend. Voilà, donc il y a une espèce de petit concours comme
voilà, ça. Voilà, celui qui... Donc il y a aussi une phrase en occitan, hein, dans cette nouvelle. Hein, tu as mis un petit peu d'occitan.
Oui, il doit y en avoir deux, oui.
Oui, oui, oui. Et donc, c'est, bien sûr, ce sont les miroirs qui parlent. Là aussi, donc, c'est un style, c'est assez original. Et puis, alors bien sûr, la chute... Parce que dans la nouvelle, la chute, c'est ce qui fait justement la nouvelle. Hein. La chute est excellente, hein. Elle est vraiment magistrale. Elle se termine en deux mots et tout est dit. Donc, on ne va pas le dire, hein, bien sûr. Hein. Il faut lire le livre. Mais voilà, une chute vraiment que j'ai beaucoup appréciée. Alors, la deuxième, c'est l'article de la mort. Donc, on en parlait à l'instant. C'est l'histoire du petit miroir de poche, enfin, du petit miroir des morts, hein, qui est dans la poche du docteur Gallo et qui sert, en fait, à faire vérifier au docteur que la personne est bien, malheureusement, bien morte.
Oui, voilà. Donc, c'est une nouvelle qui est située, évidemment, un petit
dans
peu
un
en arrière,
temps ancien,
dans
évidemment.
Le temps,
oui, les médecins n'ont
à
plus de petit miroir.
Voilà. Où on vérifiait plus ou moins la mort d'une personne par ce biais.
Alors, lui, il a pas envie de rester dans la poche du médecin. Il en a marre de voir des morts tout le temps. Alors, il rêve d'aller ailleurs. Et le miracle arrive un jour. Hein, il tombe de la poche du médecin. Mais finalement, ça va devenir un cauchemar. Hein, ce qui croyait être un bonheur devient un cauchemar. Donc, là non plus, on ne dit pas la fin. Mais voilà, ça... Non, mais ça se termine bien. On peut dire que quand même, ça se termine bien.
C'est une nouvelle assez, gentille pour le miroir
et
son entourage. Ça va.
Tout à fait. Mais très... Enfin, j'ai bien aimé aussi, elle est rigolote, on peut dire celle-ci. Hein. Alors ensuite, la troisième, c'est voir Dieu. Alors celle-là, elle est particulière. Hein. Un miroir, donc, qui connaît une femme depuis qu'elle est enfant, une femme qui atteint la quarantaine, hein, la quarantaine quadragénaire débutante, hein, comme tu l'écris. Et puis elle se voit vieillir, hein, finalement, dans ce miroir, et elle ne supporte pas. Elle anticipe voilà, sa vieillesse et elle ne le supporte pas. Et donc, il va y avoir un changement radical un jour, un changement de vie, un changement de... oui, de vie, et puis jusque, enfin, un jour, il y a le reflet, un reflet intérieur, hein, cet éclat de reflet intérieur à la suite d'une lecture, hein, d'un certain livre. Et donc, elle va finalement aller dans un couvent.
Voilà, elle va prendre le voile.
Voilà, elle va prendre le voile.
Et le donc, miroir elle, aussi, du même coup.
Et le miroir aussi, pendant 6 mois, il va être au fond d'un sac. Elle l'emmène quand même avec elle, hein, dans le couvent, mais il est caché au fond d'un sac. Et puis au bout de 6 mois, elle le ressort. Et puis bon, bah là aussi, c'est pareil, on va pas dire la fin de l'histoire, mais moi, je trouve que c'est une belle histoire.
Oui, voilà, une histoire qui est encore finie
positive.
Bien.
Elle est positive, elle est optimiste,
j'ai mal habitué mes lecteurs.
Tout à fait. Elle est positive, optimiste, puis bon, elle est teintée de liberté, d'accomplissement épanouissant. Hein.
Oui,
il y a
voilà.
Un certain âme, on peut dire ça. Donc voilà, une très belle, là aussi, une très belle nouvelle aussi, qui parle aussi, mais ma foi, des femmes qui, voilà, qui voient des rides apparaître dans leur miroir.
Ça arrive.
Ça arrive, oui. Alors la quatrième, c'est la corde pour le pendre. Alors là, c'est une histoire insolite aussi. C'est un miroir dans une chambre d'hôtel de passe, hein, un miroir de coiffeuse, et qui voit un client chaque jeudi après-midi venir. Alors pas du tout pour ce qu'on pourrait croire, hein, parce qu'il vient seul déjà. Oui. Et puis il écrit. Il écrit, en fait, et c'est pour ça que le miroir voit ce qu'il écrit, donc connaît un peu son histoire, hein, cet homme, et connaît un peu sa vie. Et voilà, donc il... bah là non plus, on ne peut pas dire la fin, hein, mais...
Non, c'est interdit.
Ah oui, c'est interdit. On interdit carrément de dire la fin. Mais voilà, donc il est complice hein, aussi, ce miroir. Enfin, ils sont tous complices quelque part dans toutes ces nouvelles, ils sont complices.
J'essaie de les faire interagir d'une certaine façon, ce qui n'est pas évident puisqu'un miroir est relativement passif. Hein, on le remarque dans la vie de tous les jours.
Il
y a rarement quelque chose qui se passe entre lui et nous qu'on puisse véritablement décrire, mais...
C'est un petit peu le défi
que j'avais envie de relever dans ces nouvelles, c'était de faire de ces miroirs de véritables personnages et pas seulement des objets, bon, avec les limites que ça comprend, que ce soit au niveau du vocabulaire ou au niveau de l'action elle-même. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant à écrire et même quelquefois assez passionnant.
Bah oui, tout à fait. Puis je trouve que ça s'est bien rendu. Enfin, je veux dire, on a vraiment l'impression que le miroir, c'est presque une personne.
Oui.
Hein, quand on lit toutes ces nouvelles. Alors, donc, la fin, donc, comme on le disait, on ne va pas la dire, hein, voilà, de celle-ci non plus. Hein, aucune, d'ailleurs, on ne dira aucune fin. Il faut lire le livre, tous nos petits morceaux hein, d'Emmanuel. Donc, la cinquième s'appelle « Psyché et Thanatos ». Alors là, c'est un miroir qui est dans la même famille depuis 2 siècles, qui est toujours dans la même chambre des parents, hein, qui a vu défiler des générations.
Oui, une famille bien installée.
Voilà, donc plusieurs...
Une famille ancienne et un peu bourgeoise, quoi.
Donc dans la chambre des parents. Et puis, il y a Louison, alors qui, elle, a 16 ans, est une ado, on peut dire, un peu mal dans sa peau, hein, comme beaucoup d'ados, hein, cette période-là. Et puis, sa mère décide de lui offrir son miroir. Et donc, le miroir déménage donc, dans la chambre sous les toits, la chambre de Louison. Et le miroir ne va pas du tout apprécier ce changement ni de lieu ni de maîtresse, hein, entre guillemets. Et eh bien, le miroir va se venger. Hein, on va faire attention au miroir. Méfiez-vous des miroirs. Hein, la vengeance d'un miroir, ça peut être terrible. Parce que là aussi, eh bien, ma foi, celle-ci, non, elle est un peu noire hein, de nouvelles, on peut dire, Emmanuel.
On peut dire.
On peut dire, voilà. Donc, voilà, celle-ci, c'était la cinquième. La sixième. La sixième, je l'ai sous la main, c'est Témoins spéculaires. Alors, ce sont toujours des titres assez insolites. Hein.
Oui, j'aime bien jouer avec les titres. Et... Bon, voilà, l'idée du miroir après.
Oui, tout à fait.
Relativement limité, mais il y a quelques mots qui permettent...
De retrouver, oui, ouais, tout amusant. À fait. Alors là, c'est un miroir donc, dans une fête de jeunes hein, qui est témoin, là aussi, hein, témoin muet, hein, bien sûr, de ce qui va se passer hein, une première fois pour une jeune fille. Voilà, les premières fois sont pas toujours très réussies. Ensuite, la septième, c'est Gentille Alouette. Ah, alors là, celle-là, je m'en suis pas encore remise, je crois.
On peut passer si tu veux.
Non, elle est très bien, elle est très très bien. Alors c'est une nouvelle, donc c'est dont le thème est difficile, hein. C'est un puzzle de lumière, hein, un miroir aux alouettes, un mobile qui est dans la chambre d'un bébé, ce bébé qui pleure, qui a peur du noir et qui voudrait sa maman. Et puis au fur et à mesure donc de la lecture, on apprend l'histoire non seulement de ce puzzle de lumière, parce qu'il a une histoire à lui personnellement, et puis on apprend aussi bien l'histoire de cette maman qui est seule avec ce bébé qui pleure et voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais celle-ci m'a beaucoup marquée, peut-être parce que voilà, je suis maman, tout comme toi aussi,
oui,
Emmanuel.
Oui, il y a des choses qu'on évacue comme ça, à travers des nouvelles très, très sombres.
D'un côté, vaut mieux les évacuer de cette façon, voilà. Je veux dire. Hein, voilà. La huitième, c'est le signe du miroir. Alors celle-ci, je l'ai bien aimée aussi. Alors là, on peut résumer, c'est une véritable histoire de fou. Hein, je crois que... Elle est longue, hein, celle-là, en plus, de nouvelles, parce qu'elles ne sont pas toutes de la même... Il y en a des courtes, il y en a des longues. Celle-ci est plus longue que les autres.
Oui, et puis c'est une des rares nouvelles qui n'est pas écrite réellement du point de vue d'un miroir
tout
concret,
à fait.
On va dire.
Oui.
C'est un miroir qui est plutôt psychique.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une véritable histoire de fou qui donne froid dans le dos, mais le dos de qui, hein? Alors, si vous voulez la réponse, lisez la nouvelle, Le signe du miroir. C'est la huitième du recueil. Voilà, vous comprendrez mieux pourquoi je dis cette petite phrase.
C'est bien trouvé.
La neuvième, ah oui, une belle histoire. Le jour où la neige a recouvert la plage. Alors déjà, rien que le titre... Voilà, la neige qui recouvre une plage, déjà, on se dit, tiens, c'est curieux. Quand en plus, on sait que c'est en Bretagne, c'est encore plus curieux.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Et puis donc, c'est un miroir dans un bus, en Bretagne donc, et qui rencontre, on va dire, le regard d'une jeune fille qui est assise juste derrière le chauffeur et qui a une tache... noir sombre, enfin noir,
oui,
noir bleu, bleu
une
noir,
tache de vin,
une tache de naissance, voilà, une tache de vin sur le menton. Et donc il imagine un peu sa vie, ses projets, enfin d'où elle vient, où elle va, parce qu'elle a un sac de marin, voilà, et dans ce bus, elle a une mine, bon, elle a pas l'air heureuse, quoi. Et puis ils vont se revoir 20 ans après. En fait, le miroir la retrouve 20 ans après dans un bus aussi. Lui, il est toujours miroir dans un bus. Bon, c'est plus le même bus, mais il
c'est
est toujours là.
Chauffeur,
c'est plus le même chauffeur. Voilà, c'est le même bus, mais qui a vieilli. Mais c'est plus le même chauffeur. Et il retrouve, voilà, par hasard, la jeune fille qui, 20 ans après, bien, a changé, hein, bien évidemment, est plus épanouie. Et puis jusqu'à la plage bretonne où la neige s'est mise à tomber. Là non plus, on va pas dire la fin. Hein, voilà, mais c'est une très belle histoire teintée de poésie. Hein,
oui, c'est une nouvelle qui est très poétique.
Oui.
Comme j'ai peu l'habitude d'en faire, mais.
Eh ben,
comme quoi.
Elle est réussie. Voilà. Et le titre, avec la neige et tout. Donc voilà, c'est une rencontre, 20 ans après, les retrouvailles du miroir avec cette jeune fille. Alors la dixième, c'est tentative réussie d'approche de l'infini. Alors voilà, ça c'est aussi un titre, mais qui est très, quand on lit la nouvelle, c'est tout à fait ça. C'est dans un bar PMU un dimanche matin, deux miroirs qui parlent entre eux. Et au sujet d'un couple, d'une jeune fille et d'un jeune homme qui sont là, qui viennent depuis plusieurs semaines dans ce PMU. Et donc, il y a un des miroirs qui est plus sage et plus philosophe que l'autre, sûrement, qui voit de l'amour entre eux, alors que pourtant, ils ne se touchent pas, ils ne se regardent pas. Finalement, peut-être que le miroir, il a peut-être raison. Hein.
Oui.
Ah. Faut lire la nouvelle là aussi, mais c'est une très belle nouvelle. Alors la onzième, c'est vous êtes tous des anamorphoses. Alors c'est ça aussi, c'est un titre. Hein. Alors c'est un peu le miroir, de Narcisse, de Blanche-Neige, la porte d'Alice aussi. Enfin c'est un peu et puis des célibataires aussi, dont une célibataire.
C'est un miroir qui parle un peu au nom de tous les autres et qui revient sur le sort de tous ces miroirs qui ont fait l'histoire.
Et oui, parce
dans
que,
la littérature ou
tout
ailleurs,
à fait,
dans
Blanche-Neige,
et qui se retrouve de nos jours à n'être que les témoins de mesquinerie.
De mesquinerie, voilà, puis de solitude aussi.
Un miroir qui
aussi
se plaint un petit peu de son sort. Et,
de solitude
et qui reflète aussi
la solitude de certaines vies, de certaines personnes qui ont une vie Et alors la douzième, ah la douzième, le jeu du miroir plus exactement, voilà, alors celle-là je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé aussi. Ce sont donc les voix de deux jumelles, hein, enfin de deux sœurs jumelles, et on apprend au fil de la lecture ce qui s'est passé le jour de leurs 6 ans. Hein. Alors là non plus, hein, on va pas dire non plus ce qui s'est passé, mais c'est vraiment, et comme quoi, voilà, jeu du miroir, il faut faire attention là aussi.
Si oui, c'est pas où ça peut
si ce jeu existe vraiment, il faut faire attention, parce qu'on ne sait pas, la fin, comment ça peut finir. Hein.
Oui, les jeux de miroir sont souvent un peu dangereux.
Oui, enfin, ben
c'est
voilà.
Cette nouvelle semble dire.
Oui.
Il y a une petite part de fantastique dans celle-ci.
Oui, c'est, tout à fait.
Comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis d'explorer des styles et des atmosphères très différentes. Donc ça m'intéressait d'avoir ce point de vue du miroir.
Bah, merci Emmanuel. Alors là, on va se quitter avec une chanson qui est donc de toi. On entend ta voix.
Oui,
avec
voilà,
Manu qui est à la guitare, enfin qui a fait
qui est à divers instruments, je ne sais plus exactement. Mm-hmm. Je pense qu'il y a forcément la guitare. Je dois faire un peu de saxophone. Enfin, c'est une chanson qui est extraite d'un album en cours qui s'appelle Glossolalie et que nous achèverons bientôt.
Donc, voilà. Donc c'est en russe et en espagnol.
Russe et espagnol, voilà.
Et donc c'est de Emmanuel et Urien et Manukos, voilà les deux. Et merci beaucoup Emmanuel
pour
ce recueil, tous nos petits morceaux aux éditions d'Un noir si bleu d'Emmanuel Urien. La semaine prochaine, je recevrai Flora Blanco qui nous parlera du festival jeunesse, du 10e festival du livre jeunesse à Saint-Aurin, ce qui se déroulera eh bien, le week-end prochain. On se quitte donc avec cette chanson. Merci Emmanuel et à bientôt pour ton deuxième roman.
Merci, à bientôt Claire.
Adiciats.
En realidad, y a principio hubo, siempre he pensado, principio ya y hubo, que no hay memoria colectiva. A pierre stupita, ni pierre stupita. Lo que quizá sea una forma de defensa. Le doy esta araña estancia.